kelen tontot.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Meload. Et bien pour un premier numéro d'une série qui va s'intituler les Summer Sessions, les sessions d'été. Pourquoi ? Et bien vous le savez, d'habitude Check Meload prend ses quartiers d'été, enfin marque une longue pause entre le début juillet et jusqu'au mois de septembre pendant les vacances scolaires. Et cette année, eh bien, il y a eu le confinement qui est venu un petit peu bousculer tout le monde. Donc, il n'y a pas eu d'émission pendant un bon paquet de semaines. Et j'ai trouvé important de pouvoir rattraper ces émissions manquées, eh bien en utilisant ces semaines d'été où d'habitude les émissions sont stoppées, eh bien pour vous proposer ces petites séances de rattrapage. Alors au moins je vous accompagnerai quelques semaines au moins durant le mois de juillet et puis on verra comment ça se passe. Je prendrai certainement quand même une petite pause au mois d'août, mais bon, en tout cas là pour les vendredis à venir, je serai là et je vous proposerai comme d'habitude au long de l'année, eh bien une petite sélection de nouveautés. Alors des choses qui vont arriver là pendant l'été, il y en a quelques-unes, il y a un ou deux gros trucs qui se profilent. Et puis surtout, bah, ça va nous permettre de les rattraper, hein, ces vendredis manqués pendant le confinement. Et puis de parler de plein d'albums justement que j'ai pas pu présenter et qui méritaient d'être diffusés dans cette émission. Donc au programme de ce vendredi 10 juillet, alors on aura pas mal de tendances new metal et metalcore aujourd'hui, mais pas que loin de là, puisqu'on aura également du folk metal, on aura du black, on aura du heavy. J'ai une sortie pour ce vendredi 10 juillet et puis bah voilà, vous allez découvrir tout ça au fil de l'heure qui va s'écouler maintenant en votre compagnie. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite les hostilités avec justement la sortie de ce 10 juillet. C'est le nouvel album des Finlandais de Ansiferum, un album qui s'appelle Talasik. Donc Ansiferum, c'est un groupe qui nous vient de Helsinki, qui existe depuis 1995. Il a été créé sous l'impulsion du guitariste Markus Toyroven, oui c'est bien ça, Markus Toyroven, qui est désormais l'unique membre fondateur encore présent. Alors avec Ansiferum, on est sur du folk metal à tendance viking. D'ailleurs les premières années du groupe, elles vont être quasiment consacrées à stabiliser la formation et puis à mettre au point un répertoire qui s'inspire de la mythologie nordique et puis de la civilisation viking, dans un style musical qui va mélanger death mélodique, sonorité folk assez proche du pagan metal. Donc comme vous vous en doutez, les morceaux d'Ansiferum sont régulièrement agrémentés d'instruments dits traditionnels. Et d'ailleurs, pas les plus connus, hein, j'ai envie de dire. Allez regarder un petit peu sur internet, allez fouiller, vous allez voir, je vais pas vous ressortir les noms d'instruments parce que j'aurais vraiment peur de les écorcher et de dire n'importe quoi. Alors, la discographie du combo, désormais, elle compte 8 albums, hein, avec celui qui paraît aujourd'hui. Et on peut remarquer, au fil du temps et des disques, eh ben, que l'univers musical du groupe devient de plus en plus épique et symphonique. Pour preuve, eh ben, par exemple, allez écouter une des premières œuvres d'Anti-Ferrum. Vous prenez, je sais pas moi, l'album Victory Songs qui est paru en 2005, et puis ensuite vous enchaînez avec une œuvre plus récente comme l'excellent One Man Army qui date de 2015, qui avait connu un succès relativement important en Europe. Et là vous pourrez constater cette évolution musicale qui est quand même très très importante. Et puis ce qui a été un petit peu dommage dans la discographie du groupe, c'est qu'en 2017 ils avaient surpris un peu tout le monde avec un album qui s'appelle Tout Passe, donc c'était leur dernier en date jusqu'à aujourd'hui. Et cet album, il avait été enregistré tout en analogique, à l'ancienne, quoi. Et le procédé avait pas vraiment réussi à Anti-Ferrum. C'est dommage, parce que ça a donné une production un peu datée à l'œuvre, et finalement, ça a gâché des compos qui, elles, avaient vraiment du potentiel. Alors, c'est un album qui a reçu un accueil très mitigé, et d'ailleurs, qui le mérite, de toute façon. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, et Anti-Ferrum en a visiblement pris compte, puisque Talasic, revient à un son actuel, puissant, qui convient particulièrement bien à l'identité du groupe, qui est à la fois conquérante et orchestrale. Alors, après cette parenthèse qui a été un peu moyenne, là, on a un bon retour à l'inspiration, un bon regain d'inspiration. Talasic nous emmène dans des folles cavalcades mélodiques et symphoniques qui sont taillées pour déchaîner les foules en live. Maintenant, on espère que vite, le groupe pourra en faire justement des lives. Donc, ce que je pense, moi, de cet album, c'est que on peut dire que c'est une franche réussite. Il fera certainement partie des très bons crus de la discographie d'Anti-Ferrum. Et il nous prouve aussi que si le groupe avait, avec son album précédent, perdu une bataille, il est loin d'avoir perdu la guerre. Preuve en est avec ce nouvel opus intitulé Talasic, dont on écoute tout de suite un extrait avec l'hymne qui s'appelle Run Women Victory. Voici tout de suite Anti-Ferrum sur Bac FM.
We'll be right back.
rhum des femmes et pas de la bière comme avec Soldat Louis, mais rhum Women Victory, c'est la version Anciferum que vous venez d'entendre à l'instant sur Bac FM, une version un petit peu plus péchue que celle des rockers bretons des années 80. Anciferum, donc groupe finlandais qui sort aujourd'hui un nouvel album intitulé Thalassic et qui nous envoie de belles hymnes guerrières en plein dans les oreilles. C'est un très bel album que sort aujourd'hui le groupe. On va du coup oublier le petit ratage du prédécesseur et on va se concentrer sur celui-ci. Et puis surtout, si vous avez envie d'écouter du Anciferum, allez chercher One Man Army qui était paru en 2015, qui était vraiment aussi excellent. Je pense que là, on tient les deux meilleurs albums du groupe, les deux plus aboutis et les deux plus puissants. On va maintenant s'intéresser à un projet qui aurait dû nous arriver il y a maintenant presque 3 ans. Malheureusement, la vie a fait que ça n'a pas pu se faire pour les raisons que je vais expliquer. Et finalement, cet album est arrivé fin juin. Il s'agit de l'album Amends, signé du groupe Grey Days. Alors là, ça demande quelques explications, hein. Le 20 juillet prochain, ça va faire déjà 3 ans que Chester Bennington disparaissait, laissant tous les enfants de la génération nu metal orphelins. Et bien, c'est donc avec une certaine émotion que l'on retrouve aujourd'hui la voix désormais mythique de Linkin Park à travers cet album Amends, donc de la formation Grey Days, qui, il faut le savoir, fut le premier groupe de Chester Bennington avant qu'il ne rejoigne les rangs de Linkin Park à l'aube des années 2000. Alors effectivement, l'histoire de Grey Days, elle commence à Phoenix, d'où est originaire Bennington, en 1993, sous l'impulsion du chanteur, mais aussi sous l'impulsion du batteur Sean Dowdell. Alors à l'époque, le son de Grey Days, il est très loin du son new metal que va impulser Linkin Park. Vous le savez peut-être, mais Chester Bennington, c'était un grand fan de grunge, c'était aussi un ami très proche de Chris Cornell, une des icônes de la scène grunge de Seattle, qu'il admirait énormément. C'était presque un frère pour lui. Alors pour les non-initiés, Chris Cornell, qui s'est suicidé quelques semaines avant Chester Bennington, c'était le chanteur emblématique de Soundgarden. Et donc, avec Grey Days, on comprend un peu tout cet amour pour le grunge, hein, puisque Grey Days est une formation grunge typique des années 90, un son qui n'a d'ailleurs absolument rien à voir avec celui du nouvel album, de celui qu'on va découvrir tout à l'heure, parce que lui, eh ben, il est presque dans la veine de Linkin Park, avec un son très très moderne, très new metal, mais ça d'ailleurs on va en reparler dans quelques instants. Un son bien grunge donc pour le Grey Days des débuts, comme on va pouvoir le constater sur les deux albums que le groupe va sortir. Alors il y aura déjà Wake Me en 1994 et puis il y aura No Sun Today en 97, mais à ce moment-là, les relations sont plus du tout au beau fixe entre les membres de Grey Days, qui va choisir de se séparer quelques temps plus tard. La suite de l'histoire, on la connaît, hein, ce sera direction Los Angeles pour Chester Bennington qui va intégrer Linkin Park, avec qui il va enfin connaître cette gloire qui lui tardait tant d'avoir, hein, et ça va arriver dès la sortie de l'album Hybrid Theory en 2000. Hybrid Theory, c'est un album qui devient instantanément un disque culte de l'histoire du rock. Et donc, alors que l'histoire de Grey Days semblait définitivement relevée du passé, Chester Bennington et deux de ses ex-comparses, donc le batteur Sean Dowdell que j'ai déjà évoqué, et puis le bassiste Massim Byers, vont décider en 2017 de littéralement ressusciter le projet, mais dans une version 2.0. Alors malheureusement, Bennington va lâcher ses camarades avant d'arriver au terme du travail entamé, et c'est justement pour lui rendre hommage, et avec la bénédiction des proches du chanteur, que les autres membres de Grey Days ont mis un point d'honneur à terminer cet album, qui est Amends, qui regroupe en tout 11 titres, qui ont été piochés dans les deux albums que le groupe a sortis dans les années 90, qui sont d'ailleurs quasi introuvables en version physique maintenant, et que Grey Days donc a réenregistré des titres revisités, totalement modernisés. Donc, ce qui donne un résultat à la croisée entre un son post-grunge hérité de l'époque et l'univers moderne et synthétique de Linkin Park, ce qui nous permet de découvrir un Chester Bennington tout en pureté et en émotion. C'est vraiment un album qui m'a énormément touché par cette fameuse émotion très intense qui s'en dégage. Et puis, alors, c'est vrai que je sais pas si c'est très objectif, parce que Chester Bennington, c'est quelqu'un qui me touche particulièrement, parce que le drame qui a frappé sa famille, c'est un drame qui a frappé également ma famille. Alors je sais pas si ça joue aussi, mais en tout cas moi j'ai trouvé que Amen c'était un hommage qui était très poignant, très réussi. Et merci vraiment à Grey Days d'avoir pris le temps de terminer ce magnifique projet, auquel ont participé d'ailleurs quelques amis de Bennington, hein, puisqu'on y retrouve Brian Ed Welch et James Monkey Schaeffer de Korn. Il y a également Marcos Curiel de POD, il y a Brian Chuck qui avait joué avec Chester Bennington dans Dead by Sunrise, et puis, joli clin d'œil, son fils Raimé Bennington fait également partie du projet. Donc, on va tout de suite écouter un extrait de ce très bel album qui est Amends, avec un morceau qui s'appelle B12. Voici tout de suite Grey Days sur Back FM.
Something's wrong, DEA's into Guam. Acid trips, big fat checks, bubble Flintstone bottom mounds. All the needy rich are greedy, I find out. You don't need me by the walls, that's to fall at your bounds. You do oh.
C'était Grey Days, mon gros coup de cœur du moment, avec un extrait de l'album Amends. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est B12, donc Grey Days, premier groupe de Chester Bennington, groupe abandonné à la fin des années 90, ressuscité en 2017 au moment où lui va finalement décéder, et album qui sera finalement terminé par les autres membres du groupe, qui est paru donc le 26 juin, à découvrir absolument si vous faites partie de cette génération nu metal ou si vous faites partie de la génération grunge. On est à la croisée des deux là, et pour que vous vous rendiez bien compte à quoi ça pouvait ressembler Grey Days dans les années 90, pleine époque du grunge, et puis parce que c'est l'été et qu'on a le temps de prendre le temps pour le coup. Voilà, on n'est pas pressé, c'est les Summer Sessions, donc autant se faire plaisir. J'avais envie de vous faire découvrir le même morceau, mais dans sa version parue en 1997 sur le deuxième album du groupe qui s'appelait No Sun Today. Donc là, on va entendre Chester Bennington avant Linkin Park, et là vous allez vous apercevoir qu'on est dans un morceau qui est beaucoup plus proche qui est totalement grunge, hein, on va le dire, et c'est pas le morceau le plus grunge des albums. Vous pouvez les trouver hein, sur internet si vous creusez un peu les albums de Grey Days. Donc écoutez maintenant le même morceau, donc B12, qu'on vient d'écouter dans sa version 2020, et le voici en version années 90, encore une fois Grey Days. Voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. Les deux morceaux, celui qu'on vient d'entendre date des années 90, première époque de Grey Days, et celui qu'on avait écouté auparavant date de ces dernières années, puisqu'on le trouve sur l'album Amends, qui est paru le 26 juin. Et je vous dis, hein, c'est pas le morceau le plus grunge qu'on peut trouver sur ces albums. Allez jeter une oreille si ça vous intéresse, si vous avez le temps. C'est assez impressionnant, finalement, la carrière qu'a eu Chester Bennington de ce groupe jusqu'à Linkin Park. C'est carrément phénoménal. Voilà, on ferme la parenthèse Grey Days, mais ça c'est à rajouter dans vos petites playlists pour cet été. Vous allez passer un excellent moment si vous avez été fan de Linkin Park. Et on va rester aux États-Unis, on va s'intéresser au groupe August Burns Red. Et là on va remonter au mois d'avril, puisque c'est là qu'est sorti leur dernier album qui s'appelle Guardians. C'est le 3 avril précisément qu'il est arrivé dans les bacs. Alors August Burns Red, c'est un groupe qui nous vient de Pennsylvanie, de la ville de Lancaster. C'est un groupe qui a été formé en 2003. Alors comme la majorité des groupes, hein, c'est des potes de lycée qui l'ont fondé, et depuis le line-up a connu quelques changements, dont notamment deux au poste de chanteur qui est depuis 2006 occupé par Jake Lurs. Alors, August Burns Red, c'est du metalcore mélodique, mais quand même avec des influences qui vont du heavy au thrash en passant par le progressif et le rock. Et si August Burns Red est encore assez peu connu chez nous, eh bien en Amérique du Nord, c'est un groupe extrêmement populaire et ses albums ont connu là-bas un très très gros succès commercial. Alors parmi les 9 albums que compte désormais sa discographie, on peut dire que les plus gros succès commerciaux de Gus Burns Red sont Leveler en 2011, Rescue and Restore en 2013, Found in Faraway Places en 2015 et puis Phantom Anthem en 2017. Et pour la petite anecdote, le groupe a également sorti en 2012 un album totalement consacré aux fêtes de Noël qui s'intitule Sledding Hill, a Holiday Album. On en a écouté quelques extraits, puisque dessus on y retrouve des standards du genre mais aussi des compos qui ont tous trait à Noël, et c'est pas rare que je vous en ressorte un petit quand je fais la spéciale Check Milo de Noël tous les mois de décembre. D'ailleurs, c'est presque devenu une tradition hein, pour Gus Burns Red de sortir sa petite chanson de Noël quand les fêtes de fin d'année pointent le bout de leur nez. Mais revenons à l'actu du groupe, qui est donc ce nouvel album qui est Guardians, qui est paru en avril. Et c'est un album qui impose définitivement la formation au panthéon de cette jeune scène metalcore. C'est un album qui est toujours ancré dans cet équilibre tout à fait maîtrisé entre brutalité, technicité et efficacité. August Burns Red alterne en effet entre riffs violents et incisifs et puis passages plus contemplatifs, presque célestes. Une ambiance d'ailleurs extrêmement bien symbolisée par l'artwork du disque qui est très joli, qui représente un océan qui semble se déchaîner contre des rochers. Et sur ces rochers, eh bien, on voit un loup majestueux qui observe la scène. Elle est très belle cette pochette. Donc Guardians, ce qu'on peut dire c'est que c'est un album solide, imposant, réussi. La formation de Lancaster domine son sujet de bout en bout, et ce 9e opus de August Burns Red, c'est un must-have du moment pour tout amateur de metalcore qui se respecte. En voici donc d'ailleurs un extrait avec un morceau qui s'appelle Paramount. On écoute tout de suite August Burns Red sur Back FM. August Burns Red sur Back FM, un extrait du nouvel album Guardian qui est paru le 3 avril. On vient d'écouter le titre Paramount, donc du metalcore mélodique extrêmement bien maîtrisé, extrêmement puissant. August Burns Red, c'est une des valeurs sûres de ce mouvement et peut-être un des groupes que je préfère. Je suis pas hyper fan de metalcore non plus, faut pas exagérer, mais ils font quand même partie de mes préférés avec des groupes, je sais pas qui d'autre je peux mettre non je sais pas, je pense que c'est August Burns Red que je préfère, et peut-être à cause de leur chanson de Noël aussi. D'ailleurs c'est pas du tout le, là on est en été hein, Noël est très loin, c'est pas du tout à propos, mais on avait écouté une année dans la spéciale Noël une version de la musique du film de Maman j'ai raté l'avion qui est absolument génialissime et que je vous conseille par ce même groupe, August Burns Red. Vous êtes toujours donc sur Mac FM dans l'émission Check Meload, on est dans les Summer Sessions, on rattrape le temps perdu pendant le confinement et on s'intéresse à un album qui est sorti le même jour, hein. Je crois qu'il est sorti également, ça c'était au mois d'avril, non là on revient à un album qui est sorti le même jour que celui de Grey Days, le 26 juin, il s'agit du nouvel album du groupe En Mur, et on n'est pas si loin du style de August Burns Red là, puisque on est sur toujours dans les sphères metalcore, mais quand même malgré tout ici dans une vision beaucoup plus deathcore. Alors ce nouvel album, il s'appelle Unsight. Avant de vous en dire deux mots, je vais vous expliquer qui est En Mur, parce que je crois que je n'ai jamais diffusé ce groupe encore dans cette émission. Donc ils nous viennent du Connecticut, puisque le groupe a été créé à New Fairfield, qui se trouve dans ce petit état des États-Unis, même si depuis ils se sont basés dans le Queens à New York. Et donc le groupe va être créé entre autres par le chanteur Frankie Palmieri, qui est désormais le seul membre d'origine encore présent. À l'époque, il y avait aussi les frères Lionetti, Ben à la guitare et Joe à la batterie. Mais depuis 2016, Frankie Palmieri est accompagné de Josh Travis à la guitare, Phil Lockett à la basse et Josh Miller à la batterie. Donc, j'ai dit tout à l'heure, là, on est sur un deathcore, alors quand même aux accents metalcore très prononcés, avec également un côté très new metal, mais new metal de maintenant, hein, des années 2015-2020. On a un aspect très synthétique, très électro chez En Mur. On va écouter ça dans le morceau que je vais diffuser tout à l'heure. C'est un groupe qui va d'abord sortir un premier EP qui va avoir un certain retentissement, puisque ça va leur permettre notamment d'être repéré par le label Victory Records, que les amateurs de hardcore connaissent bien. Et donc Victory Records va permettre à En Mur de sortir son premier album qui s'intitule Goodbye to the Gallows. Ça, c'est en 2007. Et puis le groupe va enchaîner alors très vite avec un deuxième album, The Respect Issue, en 2008, puis avec un troisième album, Felony, en 2009, qui vont tous les deux connaître un succès commercial plus qu'honorable. Donc vous l'avez bien compris, hein, En Mur, c'est un groupe qui ne chôme pas, et sa discographie, elle compte désormais 8 albums studio, puisque donc le 8e, le dernier en date, c'est Unsight, paru il y a 15 jours, qui est un album aussi concis que percutant, tel un réceptacle de rage. Inside nous envoie pleine face des titres courts pour finalement mieux laisser exploser sa violence, son groove. Le combo s'en donne vraiment à cœur joie. Alors comme d'habitude, le son de En Mur est ultra moderne, synthétique, mais paradoxalement on a aussi des passages qui sont très organiques. Ça c'est pareil, hein, ça s'explique pas, ça s'écoute. Le deathcore d'En Mur flirte de très près avec un esprit new metal très actuel, hein, c'est encore vrai dans cet album. Alors un style qui peut s'avérer clivant et donc autant plaire que rebuter. Si vous êtes amateur, nul doute que ce nouvel opus d'En Mur va vous plaire. Désolé pour les autres, on va quand même en écouter un extrait de Hindsight avec un morceau qui s'appelle Uncontrollable Descent. Alors c'est très rapide, on en prend plein les oreilles. Voici En Mur sur Back FM.
Yeah!
Le groupe américain En Mur à l'instant avec un extrait de son nouvel album Inside paru le 26 juin. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Uncontrollable Descent, un morceau finalement presque cornien, un corn sous amphétamine. On a un côté presque dubstep hein, dans ce morceau qui est très très fort, très rapide. On s'en prend plein les oreilles en 2 minutes et quelques. 3 minutes, je suis un peu mauvaise langue là, je raccourcis le truc. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille hein, si vous aimez tout ce qui est un peu deathcore, si vous n'avez pas peur de la musique un peu synthétique, allez-y pour ce Insight du groupe En Mur. On change de style, on change de pays, on quitte... on va rester aux États-Unis, tiens, finalement, mais on change bien de style, puisque là, on va sur du death metal mélodique, et par contre, on va aller retrouver le groupe The Black Dahlia Murder. On va pas changer de pays, on va changer d'état, puisque on était dans le Connecticut, et on va aller du côté du Michigan, maintenant. The Black Dahlia Murder, qui a sorti le 17 avril un nouvel album intitulé Verminous. Donc, The Black Dahlia Murder, qui est un groupe originaire de Waterford, qui a été créé en 2001, notamment autour du chanteur Trevor Stranad, qui a un nom imprononçable, et du guitariste Brian Eschblar. Je sais pas, tous les deux là, ils ont des noms assez compliqués. Et donc ces deux-là, Trevor et Brian, on va les appeler, ce sont désormais les deux seuls membres d'origine encore présents. Pour la petite histoire, le nom du groupe The Black Dahlia Murders, si ça vous dit quelque chose, eh bien c'est parce que ça fait référence au meurtre non élucidé d'Elizabeth Short, une jeune actrice américaine surnommée le Dahlia Noir, qui a été assassinée en 1947. Et c'est une histoire dont on trouve des références dans de nombreux livres, films, séries, jeux vidéo. Ce crime, par exemple, il y est fait référence, si vous regardez American Horror Story, dans la première saison, me semble-t-il, mais je pourrais vous en citer tout plein. En tout cas, le style du groupe The Black Dahlia Murders, c'est du death metal mélodique. Depuis ses débuts, il y a presque 20 ans, le combo a sorti 9 albums studio. Le premier, c'était Unallowed, en 2003, qui mélangeait de nombreuses influences, comme du hardcore, du death ou encore du black, pour un résultat explosif. Depuis, avec les albums Miasma en 2005, Nocturnal en 2007, Deflorate en 2009, et puis l'excellent Ritual en 2011, le groupe s'est forgé une solide réputation au sein de la scène death internationale, une réputation qui n'a fait que se renforcer avec la sortie des albums Ever Black en 2013, Nightbringers en 2017, qui ont tous les deux reçu un accueil excellent. Et donc, mi-avril, le combo du Michigan faisait son retour dans les bacs avec Verminous, un album plus dynamique, plus émotionnel que jamais hein, dans la carrière de The Black Dahlia Murders, mais sans pour autant compromettre un iota de lourdeur. On constate effectivement que le groupe a depuis Nightbringers gagné énormément en maturité. L'écriture, la compo sont beaucoup plus soignées, beaucoup plus réfléchies. L'interprétation des morceaux, elle gagne également en qualité, tout comme la production qui est mieux dosée et qui est surtout bien plus cohérente. Et puis d'autre part, en plus d'être un album solide, Verminous c'est également un album qui est plus varié que ses prédécesseurs. La mélodie, elle est au rendez-vous, mais sans faire de concessions sur la brutalité qu'a contribué à forger l'identité du groupe. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Verminous, c'est un album accrocheur, puissant, largement à la hauteur de ce que le groupe nous avait promis avant sa sortie. Et voici la preuve en musique avec un morceau qui s'appelle Removal of the Oaken Stake. Voici tout de suite The Black Dahlia Murder sur Back FM. We'll be right back. The Black Dahlia Murder à l'instant avec un extrait de l'album Verminous paru mi-avril, et le titre qu'on vient d'écouter c'est Removal of the Oaken Stake, un album très réussi de la part de The Black Dahlia Murders qui montre une maturité toute nouvelle et un nouveau petit chef-d'œuvre à rajouter à sa discographie avec pas mal de très bons albums. Si vous aimez le death metal, c'est vraiment un groupe que je vous conseille d'aller découvrir au cas où vous ne les connaîtriez pas encore. Et ces Summer Session de Check Me Load vont aussi nous permettre de découvrir quelques petits lives qui sont sortis ces derniers mois. Et là, on va commencer par un live qui est sorti, alors ça commence à dater, hein, puisque c'était le 28 février. C'est le live du groupe Audrey Horn, un live qui s'appelle Waiting for the Night. Alors, Audrey Horn, c'est un groupe qui nous vient de Bergen en Norvège, qui a été fondé en 2002 par le chanteur-guitariste Toshi, qui s'entoure pour ce projet de musiciens qui sont issus de la scène black, comme par exemple le guitariste Icedale d'Enslaved, ou encore le bassiste King of Hell, qui est un ex-Gorgoroth et un ex-Godseed, qui lui ne fait plus partie d'ailleurs des rangs de Audrey Horn depuis 2007. Et si le nom de Audrey Horn vous rappelle quelque chose, eh bien c'est qu'il fait directement référence à la célèbre série Twin Peaks de David Lynch. Audrey Horn, c'est effectivement un des personnages emblématiques de cette série que vous avez peut-être vu ou dont vous avez simplement entendu parler. Alors, comme j'évoquais à l'instant, si le pédigré des membres du groupe est à chercher dans le monde du black metal, sa musique, elle est très très loin de cet univers, puisque Audrey Horn, c'est avant tout du hard rock avec un petit côté post-grunge. Les influences vont de Van Halen à Kiss, en passant par Deep Purple, Iron Maiden, Faith No More, Soundgarden ou encore Alice in Chains. Donc vous voyez, ça balaye vachement large. Et de toute façon, Audrey Horn, on ressent très très nombreuses influences au fil des albums qu'ils ont pu sortir. Et d'ailleurs, il y en a eu quelques... Il n'y en a pas eu tant que ça d'albums, finalement, parce que le groupe est quand même... Là, je m'aperçois que 2002, ça fait presque 20 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis ses débuts, s'il n'a pas fait dans la quantité, il a fait dans la qualité. Il y a eu le premier EP Confessional Alcohol, c'est ça qu'ils avaient fait découvrir. D'ailleurs, je les ai vus en interview à l'époque, je crois, de cet EP. Et puis après, il y a eu dans les albums notables, il y a eu leur très réussi premier album qui s'appelait No High Banda. Également dans ceux que je pourrais vous conseiller, il y a les excellents Youngblood en 2013, Pure Heavy en 2014, Blackout en 2018. Ouais, si finalement il y en a quand même quelques-uns, il y a quand même de quoi faire dans la discographie de Audrey Horn, et d'ailleurs qui est plutôt brillante et enthousiasmante. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y manquait un petit quelque chose à cette discographie quasi parfaite. C'est un petit live, parce qu'en 18 ans de carrière, quand même, ne pas sortir de disque live alors qu'il y a des groupes qui en sortent un tous les deux ans, c'est assez rare pour le souligner. Eh ben, c'est désormais chose faite, puisque ce Waiting for the Night ne se contente pas d'être un banal disque en public, mais s'inscrit finalement dans la tradition de ces célèbres albums live, ces lives emblématiques qui ont marqué l'histoire du hard rock. Audrey Horn avec Waiting for the Night s'inscrit dans d'autres albums cultes comme les célèbres Tokyo Tapes de Scorpion, Made in Japan de Deep Purple, Live and Dangerous de Thin Lizzy, des groupes réputés à l'époque pour être des monstres sur scène, et une réputation dont jouit également Audrey Horn, qui est considéré comme étant à l'heure actuelle un des meilleurs et des plus énergiques groupes de hard rock en live. Ça se confirme d'ailleurs à l'écoute de Waiting for the Night, qui a été enregistré à domicile, à Bergen, durant la dernière tournée du groupe, ça devait être 2018-2019, et là, en fait, il balaye en 1h15 et 16 morceaux l'intégralité de son répertoire avec ferveur et conviction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, cerise sur le gâteau, la version CD et la version vinyle sont accompagnées d'un Blu-ray. Alors, ce qui est certes un peu moins intéressant que la partie audio, mais qui fera tout de même le bonheur des fans avec ses 5 heures d'image. Voici tout de suite un extrait de ce live Waiting for the Night de Audrey Horn à découvrir absolument. Avec, on va pas se priver, on va écouter leur tube Redemption Blues, qui à l'origine apparaît sur l'album Youngblood qui était paru en 2013. Voici Audrey Horn. C'était Audrey Horne en live à l'instant sur Back FM. Voilà. Vous pouvez entendre Toshi s'adresser au public. Un extrait donc du live Waiting for the Night qui est paru fin février et dont on vient d'écouter un extrait avec le titre Redemption Blues, mon titre préféré de Audrey Horne qu'on trouve à l'origine sur leur album Youngblood en 2013. Voilà pour ce Waiting for the Night, donc disponible en version audio mais également avec de la vidéo pour les fans les plus purs qui veulent également voir les 5 heures de vidéo consacrées au groupe. C'est un très grand live à classer dans les lives emblématiques qu'ont pu sortir à l'époque des Scorpions, des Deep Purple ou des Thin Lizzy, du très bon hard rock de haute facture. Allez, on s'arrête là pour la sélection de nouveautés parce qu'il est grand temps de se dire au revoir. Mais ce n'est pas parce que Chick Milo a pris ses quartiers d'été avec cette série de Summer Session, de sessions de rattrapage, qu'on va pas s'offrir une petite reprise pour terminer l'émission. Et cette semaine, en plus, il s'agit d'une nouveauté puisque c'est une chanson qui est parue le 26 juin, qui va d'ailleurs en quelque sorte faire écho à l'album de Grey Days que j'ai présenté tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'une revisite d'un morceau grunge par une formation new metal. Alors le morceau en question, c'est The Day I Tried to Leave the Soundgarden, qui est ici repris par Seven Dust. Mais commençons, si vous le voulez bien, par dire quelques mots sur la chanson et sur le groupe à l'origine de cette chanson, donc le groupe Soundgarden. Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais Soundgarden fait partie des icônes de la scène grunge qui a émergé à Seattle dans les années 90, au même titre que Nirvana, Pearl Jam ou Alice in Chains, c'est eux qu'on cite tout le temps. Et si c'est dans les années 90 que le groupe va connaître ce succès incroyable, c'est quand même bien avant, en 84, qu'il voit le jour sous l'impulsion du charismatique et ténébreux chanteur Chris Cornell. Après 2 albums au succès tout relatif à la fin des années 80, la carrière de Soundgarden elle va exploser avec la sortie en 91 du désormais culte Bad Motor Finger. 91 qui semble être d'ailleurs l'épicentre de la vague grunge, puisque sortent les albums. Alors ça sort tout à la suite, vous avez tout d'abord Pearl Jam qui va sortir Ten le 27 août 91, vous avez ensuite Nirvana qui va sortir Nevermind le 24 septembre et puis Soundgarden qui sort Bad Motor Finger le 8 octobre, donc 3 classiques du genre. Mais en ce qui concerne Soundgarden, c'est pas avec ce Bad Motor Finger qui vont voir leur carrière exploser, c'est avec c'est leur album suivant qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire, mais qui est d'ailleurs tout aussi culte, c'est l'album Super Unknown auquel on va s'intéresser. Et lui il est sorti quand même un petit peu plus tard, il est sorti le 8 mars 94. C'est lui qui contient non seulement le tube Black Hole Sun que tout le monde connaît, mais aussi la chanson The Day I Try to Live qu'on va écouter tout à l'heure, reprise par Seven Dust. Alors d'ailleurs, The Day I Try to Live, ça va être un des singles tirés de l'album, mais il va pas bénéficier d'une promotion à la hauteur et du coup ça deviendra pas un hit comme par exemple Black Hole Sun. Ça n'empêche que pour les fans, c'est une chanson qui figure bel et bien parmi les classiques du répertoire de Soundgarden. Elle a été composée par Chris Cornell et The Day I Try to Live, c'est une chanson très personnelle dans laquelle il évoque un petit peu sa tendance à se replier sur lui-même et ce désir de s'ouvrir aux autres, une chanson aux abords sombres mais finalement pleine d'espoir pour ce chanteur aussi talentueux que torturé qui finira par se donner la mort le 18 mai 2017, je le disais tout à l'heure, quelques semaines avant Chester Bennington, qui se serait d'ailleurs donné la mort en partie par la tristesse que lui avait provoqué le décès de Chris Cornell. Mais il n'y avait pas que ça, c'était plus profond que ça. Mais bon, refermons la parenthèse. Donc, revenons à la chanson The Day I Tried to Live. Elle avait été reprise une première fois par le groupe de death progressif américain Between the Buried and Me, et aujourd'hui elle est reprise par Seven Dust, un combo également américain qui est originaire d'Atlanta, qui a vu le jour en 94. Alors, c'est un groupe qui au départ a un son dans la lignée de Korn, de Deftones, et qui va sortir 3 albums marquants entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000. Le groupe qui se distingue par une stabilité extrêmement rare, puisque son line-up est le même depuis le début, a sorti à ce jour 12 albums studio, et cette reprise qui est The Day I Tried to Live, elle figure pour l'instant sur aucun album. Seven Dust en fait choisit d'enregistrer ce morceau pour rendre hommage à l'impact qu'ont pu avoir et Soundgarden et Chris Cornell sur leur musique. Et puis c'est également un clin d'œil à cette année 94 qui a vu naître Seven Dust et au cours de laquelle est paru l'album Super Unknown et donc la chanson The Day I Tried to Live. Voilà, Maintenant, vous savez à peu près tout sur l'histoire de cette chanson qui est The Day I Tried to Live de Soundgarden. Donc, bah, il est temps de la découvrir revue et corrigée version Seven Dust. Un single, je le rappelle, paru le 26 juin. Quant à nous, eh ben, on va se donner rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Check Me Load Summer Session. En attendant, profitez de l'été, écoutez du métal. Salut à tous!
Was in my